dans les gens qui travaillent ici? Est-ce que cette tension existe entre l'aspect matériel de l'archive et l'aspect dématérialisé de l'archive? Est-ce que vous avez entendu cela?
Non, parce qu'en fait, ici, ils sont en train de... De toute façon, la dématérialisation, elle va prendre des années, des centaines d'années. On n'est pas prêt d'avoir dématérialisé tout ce qu'il y a ici. Elle se fait petit à petit. Aujourd'hui, on dématérialise surtout les inventaires, c'est qu'on puisse, avant de venir chercher l'archive, c'est vrai que de chez soi, c'est important de dire par Internet qu'est-ce qu'on a envie de chercher, parce que sinon, on sait même pas ce qu'on cherche. Donc, ils ont déjà dématérialisé les inventaires, c'est qu'on puisse déjà avoir les catégories de choses qu'on peut trouver, et puis après ça, on va dans le document. Il n'y a pas de souffrance sur la dématérialisation. Enfin, même les archivistes les plus anciens, qui sont les plus gras de papier, enfin les plus amoureux du papier, ne sont pas du tout réticents à ça. Enfin, au contraire, ils pensent que, si vous voulez, la vocation de tous ces métiers, c'est quand même la diffusion, c'est quand même la valorisation, c'est la communication. On fait venir ici, il y a un service éducatif qui fait venir des enfants, des étudiants, pour leur montrer les choses, etc. Enfin, c'est pas un lieu de l'enfermement ici, hein. C'est le contraire. Moi, je travaille beaucoup en prison, enfin, c'est absolument l'inverse, hein. C'est un lieu d'ouverture, et alors évidemment, avec les moyens qu'ils peuvent, il y a les expositions, il y a la salle de lecture, il y a les visite de collégiens, de lycéens, et puis il y a les chercheurs qui font des conférences, qui font des communications, et tout ça n'est encore pas suffisant, mais moi je trouve que on devrait tous être beaucoup plus en lien quotidien avec tous ces récits et toutes ces aventures.
Et vous-même, vous allez revenir aux archives, à la rue des archives, pour faire Palamsès, et cela sur votre propre mémoire. Vous allez réinvestir votre mémoire. Et la question qui me viendrait d'abord, c'est: est-ce qu'il y a une tension entre ce lieu parisien mythique et puis ce lieu moderne? Est-ce qu'on sent une tension?
Ah, c'est énorme, absolument énorme. En tout cas, pour les agents, c'est énorme. D'abord, ça a été une très grande, je vais oser le mot, souffrance pour les agents de venir à Pierrefitte, parce qu'ils étaient dans le marais, hein, dans des hôtels particuliers, c'était quand même dans les choses anciennes. Et même si le travail était fastueux, parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur toujours, il y a des escaliers partout, il n'y a pas la température qu'il faut via les conditions, c'est pas du tout les bonnes conditions pour les archives, c'était les bonnes conditions pour les gens. Hein. On va, quand on traverse dans la rue de Rambuteau, rue des archives, oh, il y a des cafés, bon, on est dans Paris, c'est l'aristocratie ouvrière, en fait, on baigne dans l'huile, le tapis rouge. Et là, il faut passer le périphérique, il faut prendre la ligne 13, il faut arriver ici, et on est dans un bâtiment qui n'a pas d'histoire, dont les murs sont presque blancs, enfin sont vert clair comme certains milieux hospitaliers, enfin bon, et qui sont pourtant hospitaliers. Hein, on est là pour être accueillis, et donc il y a une tension. Et aujourd'hui, entre les agents qui n'ont pas voulu venir ici et ceux qui sont venus ici et qui trouvent que les conditions de travail sont fantastiques, qu'on se communique bien, qu'il y a des ascenseurs partout, qu'on n'a plus à porter les choses, etc. Il y a cette tension du métier qui est-ce que le métier c'est les vieux meubles et les escaliers, ou est-ce que le métier c'est les archives avant tout avec leur mobilité? Et voilà, cette tension existe. Alors après, bah les deux existent toujours, puisque avant le Second Empire, elles sont toujours là-bas, hein, et puis depuis la Révolution française, elles sont là. Donc les gens fréquentent les deux lieux toujours. Hein.
Et vous-même, là, avec votre projet, Palamsest, vous avez voulu revisiter vos archives, mais à la rue des archives.
J'ai sauté sur une commande du GRM. Le GRM, c'est le groupe de recherche musicale de l'INA, et dont j'ai été, moi, l'élève ancien. La commande m'a été faite justement au titre de mon passé, puisque j'ai été élève de Pierre Schaeffer. Et on m'a dit, tiens, est-ce que tu veux pas revenir à tes origines, à tes sources et tout ça? Est-ce que tu as pas envie de refaire une pièce électroacoustique? Alors, j'ai dit, pourquoi pas? Et comme j'avais pas envie de quitter les archives, parce que j'ai toujours du mal à quitter les lieux, je me suis dit, bon, ben, maintenant, je vais aller au Marais, puisque j'ai abandonné les agents du Marais, je vais vers eux, et je vais leur proposer cette œuvre, une œuvre donc de facture électroacoustique, même si elle n'est pas que électroacoustique, puisque je suis allé chercher dans des enregistrements de tous mes concerts précédents. Il y a plus de 120 citations de création depuis 40 ans. Et donc ça a été un bonheur fou pour moi d'aller rechercher toutes ces archives et de faire donc une espèce de recouvrement, d'effacement et de recouvrement et de réécriture de tous ces extraits que les gens qui me connaissent bien reconnaîtront ou pas, je sais pas, enfin, et tout ça retravaillé de façon un peu, mais pas trop retravaillé. J'aime bien les sons naturels, acoustiques, les sons bruts, et donc il y a des extraits de concerts très courts qui sont imbriqués dans d'autres, mais qui sont pas retraités comme on fait maintenant avec les logiciels de traitement numérique. Et tout ça est spécialisé dans un orchestre de haut-parleurs. Il y a une quarantaine de haut-parleurs, donc avec l'Acousmonium, donc et l'orchestre haut-parleur du GRM. Ça va être très beau. Pour deux raisons. D'abord, parce que le dispositif est assez formidable. Les sons vont vraiment envahir l'espace. Il y a un travail de paysage sonore. J'ai fait une spatialisation que je crois va très bien fonctionner. Et puis, le fait d'aller rechercher toutes ces archives et tous ces sons, sont à la fois très modernes, enfin très actuels et en même temps très anciens, et qui vont se télescoper, se regarder, se dialoguer ensemble dans une scénographie lumineuse qui va être assez alors je peux vous raconter une anecdote sur cette scénographie lumineuse, c'est que Jérém m'a proposé de travailler avec un éclairagiste avec lequel il travaille souvent, qui travaille avec Pierre-Henri, qui est quelqu'un de très bien, qui s'appelle pas éclairagiste, qui s'appelle obscurantiste, et qui lui travaille avec des éclairages très 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 sombres, un peu des LED, des lasers, enfin des choses comme ça, des petites choses bleues, tout ça. Donc on est dans une ambiance très, on arrive dans un concert électroacoustique, déjà on est dans la pénombre, puisque c'est un obscurantiste. Et donc, moi, je trouvais que ça allait, c'était pas du tout mon truc. Et donc, je regrettais de pas travailler avec lui, parce que c'est quelqu'un de très bien. J'avais pas envie d'une chose mystique, enfin, j'avais pas envie d'une chose spirituelle, une chose où, comme ça, on se replie sur soi-même, etc. C'est pas du tout ma façon de penser la musique. Et donc, j'ai proposé à des éclairagistes de venir avec un dispositif que je connaissais qu'ils faisaient. Ils vont suspendre des bocaux de conserve, vides, en verre, dans lesquels il y a des ampoules. Et vous aurez 50 bocaux de conserve au-dessus de vous, avec des ampoules qui vont éclairer la salle. Et donc c'est un matériau comme ça très populaire, c'est le bocal de cornichons qui est vidé de ses cornichons dans lequel il y a une ampoule, et je pense que ça va être très beau.
Vos archives à vous, quel rapport vous avez à la mémoire?
Alors c'est les deux, je les garde et je les supprime, c'est-à-dire que je les garde pendant que je vis, puisque je vis avec, et d'ailleurs j'ai eu du bol de les garder parce que j'aurais pu aussi les avoir détruits avant, mais pour cette pièce je suis content de les avoir gardées, et elles sont effectivement appelées à disparaître avec moi puisque j'ai pas d'objectif d'être immortel, voilà, donc elles vont partir avec moi. D'autres musiciens viendront après qui feront des choses qu'on ira écouter, on n'a pas besoin de m'écouter toute la vie, quoi, enfin.
Mais vous faites des livres?
Par contre je fais des livres parce que je trouve que c'est important, les processus de travail, de donner, en plus ça donne la matière aussi aux gens avec qui je suis, tous ces gens qui m'accompagnent dans le travail, ils sont très très nombreux. Ces résidences que je fais, quand même, ça embarque beaucoup de monde. Hein. Je suis pas un solitaire, hein. Je suis quelqu'un de très social. Enfin bon, et puis aussi très politique. Enfin, c'est ça, il y a aussi une envie de faire bouger mon époque, enfin, ou en tout cas d'y participer. Donc je trouve ça important que ces gens, pas volés par une œuvre qui même disparaît ou même est récurrente, et qui se retrouvent dans un document de travail qui expose un processus, qui montre comment ça s'est fait. Et puis c'est surtout toutes ces idées qui sont nées de ces résidences et de ces musiques. C'est important de les passer. Je pense qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle et que les idées appartiennent à tout le monde. J'ai la nécessité, d'abord parce que j'ai des marges sur des fonds publics, puisque je suis subventionné, de les transmettre.
Et alors, dernière question, le public qui est là s'est trouvé à un moment, bon, le public, les acteurs de la soirée qu'on va avoir, ont vécu quand même des événements très forts l'année dernière, qui a interrompu. Est-ce que ça a encore une trace dans leur mémoire? Est-ce qu'ils en ont parlé? Ou est-ce que c'est comme quelque chose qui n'existe déjà plus?
Ah, je pense que c'est fort. En tout cas, pour nous, ça a été d'une violence inouïe, hein, parce que le concert finissait à 10h. Et depuis 10h moins 5, on avait des SMS qui tombaient et qui nous disaient que à 300 mètres, au Stade de France, on était plus loin du Bataclan, mais on était pas loin du Stade de France. Pour nous et pour tous les interprètes, ça a été très violent parce qu'on a été évacués du bâtiment en pensant qu'on revenait le lendemain. On savait pas que c'était grave, on savait pas. Et puis le lendemain, on a pensé qu'on revenait le surlendemain. Et puis on attendait chaque jour de savoir si on allait jouer. Et tout était installé, tout était là en attente, en jachère, quoi. Et avec des sommes d'argent importantes louées, dépensées, etc. Donc ça a été d'une extrême violence. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je l'ai assez mal supporté. Je suis tombé très malade après. Enfin, et je pense que pour tout le monde, ça a été dur. Le public a été très fidèle parce que là, on avait les téléphones de tout le monde, on a rappelé tout le monde et les gens se sont tous réinscrits. Donc il y a 2000 personnes. Sur les 2000 personnes qui s'étaient inscrites à l'époque, qui l'avaient pas vu, on en a un bon de trois quarts, enfin, autour de 1500 qui reviennent. Mais je pense qu'ils reviennent pour deux raisons. Ils reviennent parce qu'ils avaient envie de le voir, mais ils reviennent aussi pour marquer le coup. Qu'on ne nous interrompt pas, quoi. Qu'une chose qui doit être, on la continue. Quoi. Je pense que là, il y a un acte aussi militant de recommencer. C'est aussi pour ça que moi, je me suis employé à recommencer, même si c'était compliqué sur le plan économique. Il fallait absolument que cette chose soit finie, quoi.
Merci, Nicolas Frise.